Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Fréquence Paris Pluriel. Nous nous retrouvons une nouvelle fois dans l'émission Algérie on en discute, organisée et présentée par le collectif ACDA Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Cette fois encore, et comme à chaque semaine, nous nous retrouvons pour discuter et réfléchir tous ensemble sur la situation politique en Algérie. Cette semaine, beaucoup de rebondissements. Jeudi 25 juillet, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu 6 personnalités constituant un panel de médiation. Ben Salah exprime alors sa disposition à répondre favorablement aux conditions posées par ce groupe de médiateurs, à savoir inviter la justice à examiner la possibilité d'élargissement des personnes dont l'interpellation s'est faite en lien avec les marches du vendredi, envisager l'allègement du dispositif mis en place par les services de sécurité les vendredis et prendre des mesures pour rendre plus accessibles les médias publics. Nous pensions alors que le pouvoir tente de trouver un moyen de sortie de crise en amorçant un processus de dialogue. Mais coup de théâtre, mardi 30 juillet, c'est le chef d'état-major qui sort de son silence et désavoue dans un discours les engagements de Ben Salah en rejetant totalement les prérequis au dialogue, précisant que les prisonniers sont loin d'être des détenus d'opinion, que le dispositif de sécurité est indispensable pour protéger des infiltrations et enfin que le dialogue doit être axé exclusivement sur les élections présidentielles. Nous avons Mehdi Psikri avec nous. Mehdi Psikri, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Vous êtes militant politique. Quel regard portez-vous sur le décalage, voire la contradiction entre les engagements du chef de l'État, Ben Salah, et le discours du chef d'état-major, Gaït Salah ?
En fait, je ne pense pas qu'il y ait une contradiction. C'est tout simplement un stratagème utilisé par le régime, par le système. Première des choses, c'est que le pouvoir a tout fait pour légitimer Ben Salah. C'est-à-dire que la rencontre entre le soi-disant panel qui a rencontré Ben Salah au niveau de la présidence, le but pour le système, je dis bien, je le précise, c'était pour légitimer Ben Salah qui est rejeté par le mouvement populaire. Et en même temps, il faudrait savoir que c'est là la preuve, encore une fois, que le véritable détenteur du pouvoir en Algérie, c'est bien entendu l'état-major de l'armée. Donc, si on retient ces deux points, c'est-à-dire pour dire que l'état-major est le détenteur du pouvoir réel en Algérie et que la rencontre de Ben Salah avec le panel, c'était pour légitimer ce dernier, on peut croire que, en fin de compte, le système il est acculé, il est pris dans une sorte de bourbier et il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il essaie d'utiliser tous les subterfuges pour imposer sa feuille de route, qui est bien entendu celle de la présidentielle, comme rappelé et écrit dans le dernier communiqué de Gaït Salah.
Et alors, depuis le 9 juillet, nous sommes sortis du schéma légal du cadre constitutionnel que défend bec et ongle le pouvoir en place. Et nous sommes donc entrés en phase de transition malgré nous et malgré eux. Comment voyez-vous l'amorce d'un dialogue ou d'une négociation avec le système en place, vu les circonstances ?
Alors, effectivement, c'est-à-dire que nous sommes en période de transition, mais sauf qu'elle ne porte pas le caractère démocratique comme le souhaite le citoyen algérien. C'est-à-dire que quand on parle de transition, effectivement, c'est le passage d'une phase à une autre, mais sauf que celle qu'on est vivant depuis le 9 juillet, depuis la fin de mandat constitutionnel entre guillemets de Ben Salah et puis la fameuse fatwa qu'on pourrait traduire en français comme une sorte de jurisprudence qui permet à Ben Salah de prolonger son mandat, nous permet de dire que le système, si il rappelle quotidiennement et régulièrement le cadre de constitutionnel et pour que il appelle tout le monde à le respecter, mais le premier à piétiner la constitution, c'est bien le système, c'est bien le pouvoir. Et ce discours sur le respect du cadre constitutionnel n'est là qu'une stratégie de communication du pouvoir pour véhiculer ce contenu politique, mais politicien en même temps. C'est pour dire aux citoyens algériens, nous, nous essayons d'être légalistes, mais sauf que, sauf que le légalisme excessif n'aboutit pas à une solution politique. Or, nous savons très bien qu'en Algérie, la solution ne peut être ni constitutionnelle, ni institutionnelle. La solution est d'abord politique et même, je dirais, qu'elle est morale. Morale dans le sens de la pratique politique. Donc, je pense que toutes les conditions pour amorcer une réelle transition démocratique sont présentes, existent. Ça veut dire les ingrédients pour la réussite de cette transition existent. La première, c'est que les citoyens algériens sont décidés pour qu'il y ait une rupture radicale avec le système. Ils veulent un véritable changement du système et non pas un changement dans le système, comme essaye de le faire le pouvoir actuel. Et puis, deuxièmement, les Algériens sont décidés pour passer à une nouvelle république pour concrétiser l'état de droit, les libertés et tout ce que nous souhaitons. Maintenant, là, il y a une chose que vous devrez toujours rappeler, c'est que le mouvement populaire, c'est le véritable moteur de la révolution, et il faudrait la soutenir et puis s'inscrire sur ce schéma.
Le pouvoir en place a quand même présenté une feuille de route et s'entête depuis le début à restreindre la sortie de crise et les revendications populaires par la seule voie des présidentielles. Est-ce que cette voie-là ne peut pas être une façon d'arriver à l'instauration d'une république démocratique et civile ?
Bien entendu que non, pour la simple raison que si nous prenons le schéma organique du pouvoir en Algérie, par exemple si nous lisons la constitution ou bien les différents textes législatifs de la République algérienne, nous constatons, ça veut dire à travers cette constitution, que les pouvoirs sont centralisés autour d'une seule personne qui est entre autres le président de la République. Mais pourquoi il y a cette concentration de pouvoir au niveau de la présidence? Pour la simple raison que l'état-major et les services de renseignement ne voudraient pas que ces pouvoirs soient répartis, soient distribués au niveau des entités locales, ou bien au niveau de la société, ou bien au niveau du territoire. Pourquoi ? C'est parce que si ces pouvoirs-là sont distribués, ils ne pourront plus prendre en otage la société, ils ne pourront plus avoir cette même mise sur l'ensemble du pays, c'est-à-dire une répartition des pouvoirs, ce qu'on appelle l'équilibre de pouvoir, pour qu'il y ait une véritable séparation de pouvoir et pour garantir l'autonomie de contre-pouvoir, ne pourra plus permettre à l'état-major, c'est-à-dire le pouvoir réel en Algérie, d'être le chef d'orchestre dans le pays. Donc, ils font en sorte de concentrer ses pouvoirs autour du président de la République et ils pourront gérer ce président de la République à leur guise. Ça veut dire que au lieu d'essayer de prendre en otage l'ensemble des institutions dans le pays et qui serait impossible, parce qu'on ne peut pas, parce qu'il est impossible, même si c'est l'état-major. Donc, ils prennent en otage la présidence de la République pour la gérer à leur guise et pour en faire ce qu'ils voudront.
Alors, donc il est exclu qu'on aille vers des élections présidentielles pour les raisons que vous venez d'évoquer, mais en même temps, il faut rentrer en dialogue. Ça, on est d'accord. Donc, pourquoi ? Pourquoi doit-on dialoguer ? Pourquoi il est important de dialoguer ? Dans quelles conditions ?
Alors, moi, je remplacerai le mot dialogue par le mot négociation, parce que même s'il y a une similitude entre ces deux termes, mais par contre, le fond, il est très, très différent. Cependant, je pense qu'il faudrait d'abord qu'il y ait des préalables démocratiques, ce qui est rappelé aujourd'hui dans le pays par bon nombre de militants ou d'associations ou de partis. Et puis, quand on parle de négociation, ce n'est pas pour que le pouvoir se maintienne ou pour qu'il parte après 10 ans ou 20 ans. Non, quand on parle de négociation, c'est pour négocier les modalités du départ pacifique du système. Effectivement, les négociations dans tout pays, surtout ceux qui ont connu des transitions par le passé, surtout ces 50 dernières années, effectivement, l'issue d'une crise institutionnelle ou politique, je ne parle pas de crise, la crise elle est pour le système, mais pour la société algérienne c'est une révolution. En tout cas, c'est-à-dire que quand il y a une crise politique, ça finit toujours par des négociations. hein, que ce soit par exemple que ce soit au Chili, que ce soit en Afrique du Sud, ou bien au Brésil, en Argentine. En tout cas, il y a plusieurs modèles de négociation, plusieurs modèles de transition qui ont apporté leurs fruits, que même on peut parler du cas espagnol, du cas portugais. Maintenant, les modalités du départ du système, là aussi, c'est un chantier, c'est un grand débat qui devrait être lancé, mais une fois qu'il y a la concrétisation des préalables démocratiques. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de négociation avec le système s'il y a toujours des militants politiques qui sont emprisonnés parce qu'ils ont brandi des drapeaux berbères, ou bien parce qu'ils ont vendu des pins dans la rue, ou bien parce qu'ils ont vendu du pain, tout simplement.
Oui, et Gaït Salah est décidé à ne pas céder à ces préalables. Donc là, tout de suite, on ne peut pas rentrer en dialogue. Parce que le groupe de médiation maintient qu'il va continuer son travail de médiateur, alors que concrètement, suite au discours de Gaït Salah, actuellement, dans l'état actuel des choses, on ne peut rentrer en dialogue avec le pouvoir.
Moi, je pense que Gaït Salah, il est dans une optique suicidaire. Et il est très très mal conseillé. D'ailleurs, je pourrais même dire que l'état-major fait tout pour sacrifier Gaït Salah. Je pense que...
Oui, en plus à la radicalisation, le mouvement, là, avec le dernier discours.
Non, en fait, ça veut dire que si le mouvement se radicalise, mais il restera pacifique. Ça veut dire, en fait, il y a... Disons que la radicalité, c'est toujours quelque chose de bien. Le problème serait quand il y a une sorte de radicalisme.
Oui, voilà. Non, mais le radicalisme contre, justement, le commandement militaire, contre Gaït Salah. D'ailleurs, de plus en plus, on a vu que les revendications ou que les slogans ont changé. Depuis on ne veut plus des 3-4B, aujourd'hui on ne veut plus de Gaït Salah. C'est-à-dire on sent le mouvement préciser encore plus, un peu plus, ses revendications contre le pouvoir militaire.
Et la raison, elle est objective. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que Gaït Salah a été l'un des principaux soutiens de Bouteflika. Et puis qu'à partir du 22 février, les gens qui ne voulaient plus de la reconduction des bouteflikistes, entre guillemets, Gaït Salah en fait partie. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire que lorsque Gaït Salah a été nommé chef d'état-major en 2004 par Abdelaziz Bouteflika, bon, on connaît un peu l'histoire, c'est-à-dire c'était pour s'opposer au clan Toufir. Enfin, c'était une guerre de clans. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis 20 ans, et plus précisément depuis 15 ans, c'est que Gaït Salah a été un soutien indéfectible pour Bouteflika. Maintenant, c'est-à-dire, elle est là la raison objective. C'est-à-dire que si les citoyens algériens rejettent Gaït Salah, c'est parce qu'il a été parmi les Bouteflika. Maintenant, c'est-à-dire que si Gaït Salah s'entête à traiter le mouvement populaire des respectueux ou bien d'être contre la patrie, là ça devient très très grave, et là c'est suicidaire, parce que les millions d'Algériens qui sortent dans la rue, bien entendu que ce sont des patriotes, bien entendu que ce sont des gens qui aiment leur pays et qui veulent une véritable république pour le respect du droit, et Gaït Salah, il est dans une optique suicidaire parce qu'il va à l'encontre des aspirations de la société. Et je disais tout à l'heure que je pense, c'est une analyse que j'entretiens à mon niveau, que l'état-major essaie de sacrifier Gaït Salah parce que là il y a beaucoup d'éléments qui permettent de nous dire que l'état-major considère Gaït Salah comme un blocage
au changement
et qu'il faudrait à partir de ce cas le sacrifier.
Alors on assiste à plusieurs dynamiques qui essayent de réfléchir à la sortie de crise, et on voit aussi la société civile, les partis politiques et même d'ailleurs l'État qui organise des conférences et qui propose différentes feuilles de route. Que pensez-vous de toutes ces initiatives ?
C'est une très bonne chose. Vous savez, dans chaque processus révolutionnaire, il y a toujours l'éclatement, il y a toujours la profusion de propositions et de feuilles de route qu'elle émane de la société civile, ou de partis politiques, ou bien de simples citoyens, ou de militants indépendants. C'est une bonne chose. Et là, ça nous permet de dire que le problème en Algérie, il n'a jamais été au niveau de la société, il a toujours été au niveau du système, et que la matière grise algérienne, elle existe, et tant mieux si elle est rappelée. Maintenant, concernant les multitudes de feuilles de route qui existent, je pense que l'un des points positifs qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des convergences autour de beaucoup de points, que ce soit ceux qui sont pour un processus constituant, et que ce soit au niveau de ceux qui sont pour la présidentielle, et là je précise quand je dis pour c'est-à-dire ceux qui sont pour la présidentielle, c'est-à-dire ceux qui sont pas dans le système, c'est-à-dire il y a des citoyens algériens qui ont toujours été contre le régime ou qui ont toujours été anti-système et ils ont la conviction qu'il faudrait aller vers des présidentielles. Ils existent, ce sont nos cousins, nos voisins, des gens qu'on connaît de loin ou de près. Donc, ces personnes-là, il ne faudrait pas les traiter de quoi que ce soit.
Oui, après, ils sont précis. Ils défendent une réforme ou en tout cas une transformation du système électoral avant les présidentielles. Donc,
bien entendu.
Ils ont conscience quand même de l'enjeu.
Effectivement, c'est-à-dire que... ceux qui veulent une assemblée constituante ou pour résumer un processus constituant ou ceux qui veulent une élection présidentielle, ils rappellent toujours que avant d'aller à cette étape, c'est-à-dire le processus constituant ou bien la présidentielle, il y a toujours des garanties et des mécanismes à mettre en place, non seulement la révision et l'assainissement intégral du fichier électoral, qui est une véritable problématique, c'est même la pièce névralgique du système, la révision du code électoral, et puis pourquoi pas, c'est-à-dire la délimitation des circonscriptions électorales. Et maintenant, je pense que ces différents blocs, il faudrait les amener à s'entendre sur une ligne plus ou moins conciliante.
Nous en parlerons à la deuxième partie, pause musicale. Merci.
أبندية أولاد الحرام بصح بالبرسنتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليك وتستاك يا بندية أولاد الحرام بصح بالبرسنتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليك وتستاك أولاد الحرام 5% أولاد الحرام 5% سيبو خدام شهرية عساس ولا بلونك أوليد الحرام 5% بالحرام 5% سيبو خدام شهرية عساس ولا بلونك يضليش الوش في الدنيا باش يطلع فليزيشلو آتيو يا وليد فاميليا راك لحقت البنبوس يا بندية أولاد الحرام بصح بالبرسنتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليك والتستاج حرام طلب بوسون تصيبو شاف بيرسونيل لابد عليه يكون ميشون لازم يشم تقاح مكان وليد الحرام طلب بوسون تصيبو شاف بيرسونيل لابد عليه يكون ميشون لازم يشم تقاح مكان انسي فون 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 شيا دي بلا توري بال انسي فون 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 شيا دي بلا توري بال يعبوني يا ولد الحرام بالبرسنتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليك وتستاج تلفزيون بي دي جي تحت يدو الخدامة من البيض ويديريجي وليد الحرام 50% قبرها بي دي جي تحت يدو الخدامة من البيض ويديريجي شياتين عندو عرمة سحب الرقدة وتمونجي هكذا ضاعت الأمة وهكذاك لو قاع البيجي أبندية وليد الحرام بصح بالبرسنتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليك وتستاج يا كاع ولاد الحرام بصح بالبرسنتاج وليد فاميليا لابد عليك وليد الحرام 99% راس بق قاع الاولين اليوم رجع بريزيدون وليد الحرام 99 99% راس بقى الاولين اليوم رجع عبر يزيدو مازال واحد اهي الفايقين اللي عنده 100% شكون هو طول مون دوفين هو اللي كتب هاد لا شونس ابونديا وداك الحرام بصح بلد وسونتاج وي فاميليا وراجل خدام لابد عليك وتستاج طول مون ولاد الحرام بصح لابد عليك وطول مون يلا
Nous sommes de retour sur Radio FPP, Fréquence Paris Pluriel, dans l'émission Algérie. On en discute toujours en compagnie de Mehdi Psikeli, militant politique. Mehdi, dans les différentes feuilles de route proposées, nous décelons deux tendances, et vous les avez évoquées à la première partie. Donc celle qui prône la voie des présidentielles dans les plus proches délais, et c'est aussi la proposition du pouvoir politique depuis le début. Et puis celui qui défend un processus constituant, un peu comme l'a connu la Tunisie. Et dans un article que vous avez coécrit avec Ali Boucherka et qui a été publié sur le blog d'Ali Boucherka, hébergé par le Huffington Post, vous parlez d'une solution médiane. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors effectivement, c'est-à-dire que nous disions en première partie qu'il est tout à fait naturel, tout à fait légitime que des associations, des partis politiques puissent produire des feuilles de route ou bien pondre des propositions pour donner leur avis tout simplement sur l'issue à donner au processus révolutionnaire. Et là, c'est des choses naturelles qui arrivent dans tout pays qui connaît des processus révolutionnaires, c'est-à-dire que ce n'est pas propre seulement à l'Algérie. Maintenant, il y a différents blocs et différents pôles. Les uns défendent un processus constituant, et là aussi il faudrait clarifier c'est quoi un processus constituant, parce qu'il y a ceux qui veulent une assemblée constituante, il y a ceux qui veulent une assemblée nationale constituante, et il y a ceux qui veulent tout simplement la rédaction d'une nouvelle constitution, c'est-à-dire que là aussi
oui, les modalités sont différentes.
C'est-à-dire même ceux qui sont pour une assemblée constituante, après là on pourrait discuter des modalités d'élection, est-ce que c'est des élections classiques ou bien c'est un tirage au sort, et ainsi de suite. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui veulent une élection présidentielle dans les plus brefs délais, ou bien après révision du code électoral. Et puis, il ne faudrait pas tomber dans le piège qui pourrait faire croire à certains que celui qui veut une élection présidentielle est forcément avec le régime. Il faut faire très attention. Nous avons des amis, même des gens qui sont issus de notre famille, des voisins, qui sont pour la présidence.
C'est une position légitime.
C'est une position tout à fait normale. C'est-à-dire, c'est une conviction, c'est un avis, c'est une proposition. Donc, moi personnellement, moi, je suis pour une assemblée constituante. Mais ce n'est pas pour autant que je vais traiter de traître ou bien d'être à la solde du pouvoir celui qui croit qu'il faudrait aller vers l'élection présidentielle. C'est pas moral, je refuse ce genre de discours. Maintenant, il y a une polarisation de la scène. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faudrait être en conflit avec celui qui croit qu'il faudrait aller vers une élection présidentielle, ou bien celui qui voudrait une élection présidentielle doit entrer en conflit avec celui qui veut une assemblée constituante, enfin un processus constituant ? Est-ce que ces gens-là, qu'ils soient militants ou bien de simples citoyens, est-ce qu'il faudrait qu'ils soient en conflit ? Ou bien il faudrait trouver une sorte de compromis, il faudrait trouver une convergence, il faudrait trouver une ligne conciliatrice. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Moi, je préfère, et puis avec mon ami Ali, on le dit très bien dans le texte, on préfère que tous ces pôles, tous ces blocs s'entendent sur une ligne médiane. Pourquoi ? Parce que le régime pourrait utiliser cette déperdition, pourrait utiliser cette divergence à son profit et pourrait même utiliser un pôle contre un autre. Donc, pour éviter tout ce risque, ces différents pôles, ces différents blocs sont appelés à s'entendre sur un point convergent pour renforcer les liens, pour fortifier les rangs. Et puis, bien entendu, ça ne veut pas dire que celui qui était pour la présidentielle ou bien celui qui n'était pas en poste conscient, une fois qu'il a trouvé la convergence avec l'autre partie, ça ne veut pas dire qu'il est en train de renier ses convictions. Là, nous parlons de compromis et non pas de compromission.
D'accord. Et donc, quelle est cette solution médiane que vous proposez ?
Alors, c'est ce qu'on a appelé dans le texte une transformation constitutionnelle et institutionnelle. Alors, les uns pourraient comprendre que c'est une réforme, les uns pourraient comprendre que c'était un amendement. En fait, pourquoi nous parlons de transformation ? C'est pour traiter la Constitution dans le fond et non pas seulement en surface. Et puis, nous précisons que la transformation constitutionnelle et institutionnelle, elle va concerner les articles despotiques de la Constitution qui accordent de larges prérogatives au président de la République. Pourquoi ? Alors, si nous avons la garantie qu'avant d'aller à toute échéance, que le président de la République, et s'il y a transformation de la Constitution, bien entendu, il n'a pas le pouvoir de nomination et qu'il est restreint dans la temporalité. Par exemple, on peut dire que le président de la République, on lui enlève le pouvoir de nomination des magistrats. Ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, il n'est pas normal, à titre illustratif, il n'est pas normal qu'un président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que le président de la République nomme les magistrats. Donc, rien qu'à travers l'article 92 de l'actuelle Constitution, nous avons la démonstration qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, qu'il y a non seulement interférence et que la séparation des pouvoirs qui est énumérée dans l'article 15 de l'actuelle Constitution est non seulement abstraite, mais elle est mensongère. Donc, il faudrait garantir la séparation des pouvoirs, la liberté des contre-pouvoirs et puis l'autonomisation et puis la liberté absolue à la société pour qu'elle puisse s'encadrer et s'organiser en toute liberté. Pourquoi aujourd'hui, et de quel droit et sur quelle base on empêche les citoyens d'organiser une manifestation alors qu'ils sont obligés de demander une autorisation du Wali? Non, il faudrait que ce soit un régime déclaratif. Si des citoyens veulent organiser une manifestation ou un rassemblement, si des citoyens algériens veulent organiser un meeting, ils déclarent effectivement sans demander l'autorisation à quiconque.
Ouais, donc en résumé, vous ne préconisez pas une réécriture de toute la Constitution, mais seulement la transformation de cette partie-là de distribution des pouvoirs politiques. D'accord. Et qui le fera ? Qui fera cette transformation-là ?
Très bien. Alors, nous, ce que nous avons écrit dans le texte, nous avons dit que si les différents pôles arrivent à s'entendre sur ce compromis, là, ils sont amenés à laisser un libre débat pour trouver et créer subséquemment les mécanismes de ce chantier de transformation. C'est-à-dire que l'idée globale du texte, c'est qu'il faudrait trouver un compromis entre les différents citoyens qui pensent différemment, entre ceux qui pensent qu'il faudrait un processus constituant et ceux qui pensent qu'il faudrait des élections présidentielles. Très bien. Si ces différents pôles arrivent à s'entendre sur cette ligne médiane, là, ils devraient garantir un libre débat pour trouver ce mécanisme. Maintenant, chacun de nous, il a sa petite idée. Moi, je peux vous dire que pour qu'il y ait la transformation constitutionnelle, institutionnelle, surtout en ce qui concerne tout ce qui est despotique dans la Constitution, on pourrait prévoir un mécanisme à partir duquel les corporations, les syndicats autonomes, les associations libres et les comités d'étudiants organisent en leur sein des élections démocratiques pour élire, parce que moi je suis contre la désignation, pour élire des représentants. Quand il y a ces représentants, ils vont siéger dans, on peut appeler ça comme on veut, on peut appeler ça congrès, bien conseil des représentants. La nomination, ce n'est pas important, mais l'appellation, ce n'est pas important. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on a au moins, à travers un suffrage indirect, des représentants légitimes. Et que ces représentants-là...
L'élection, c'est au sein des organisations ? C'est-à-dire un syndicat, par exemple ? C'est des structures ?
Voilà. Ouais. Admettons, par exemple, on va prendre la corporation des architectes, ouais, ou bien la corporation des enseignants.
Ils vont élire quelqu'un...
Dans leur structure, ouais, ils organisent des élections pour élire quelqu'un. Voilà.
Oui, mais c'est aussi une désignation d'une certaine façon. Enfin, c'est juste interne à eux.
En fait, non, c'est pas une désignation.
C'est un représentant de cette corporation.
C'est-à-dire, en fait, c'est une élection. C'est-à-dire qu'il y aura, voilà, on va voter. Voilà, on va voter sur tel ou tel. Parce que si, quand on parle de désignation, c'est-à-dire qu'il y a un groupe, il va
désigner
quelqu'un.
Désigner la personne.
Voilà, et que dans le subconscient, il va s'imposer. Donc, et puis, ces représentants vont élire une instance présidentielle. Aujourd'hui, le mouvement populaire rejette Ben Salah. Il faudrait bien trouver une solution à cette équation. Ben Salah, il est parti. Admettons que Ben Salah est parti. Qui va le remplacer ? Ce sera une instance présidentielle qui a été élue par des représentants. Pourquoi ? Parce que le plus important, c'est la continuité de l'État. Et cette instance présidentielle va incarner l'État à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, cette instance présidentielle va mettre en place un collège de compétences pour entreprendre ce chantier de transformation constitutionnelle institutionnelle. Et puis, une fois qu'il y a un projet de transformation, ils vont le présenter aux représentants. Et puis, à partir de là, soit ils l'adoptent ou bien soit il y a un référendum. Voilà. Mais en tout cas, chacun de nous peut avoir une idée. Mais l'essentiel, c'est qu'il faudrait amener les différents pôles et les différents citoyens algériens qui ne pensent pas forcément de la même manière à trouver une ligne médiane.
Alors, mais du coup, donc, ça ne se ferait pas, même s'il y a même si vous parlez d'élections au sein des organismes, ça reste un représentant de sa propre corporation.
Ça, c'est moi qui le dis.
Oui, voilà. Donc, ça, c'est une proposition. Mais si la Constitution n'est pas réécrite par une assemblée qui jouit d'une légitimité, une vraie légitimité populaire, quelle légitimité aura cette nouvelle Constitution ?
En fait, là, ce ne sera pas une nouvelle constitution.
Oui, c'est la transformation.
Voilà. En fait, là, ce ne sera pas une nouvelle constitution. Parce que quand on dit une nouvelle constitution, ça veut dire qu'elle sera élaborée de bout en bout. Là, en fait, on parle de transformation constitutionnelle institutionnelle sur les articles despotiques, sur un chapitre bien défini qui concerne les pouvoirs.
Mais on ne prend pas le risque de se faire confisquer, justement, le mouvement démocratique en confiant la refonte de la constitution à un groupe de personnes plus ou moins désignées, finalement, puisqu'il n'est pas élu.
Non, en fait, ils ne sont pas désignés. En fait, ils sont élus par leur structure. Et puis là, c'est un suffrage indirect. Maintenant, ça c'est juste une idée à mon niveau. Oui. Maintenant, si, par exemple, les différents blocs arrivent à trouver là aussi un autre compromis pour savoir comment créer ce mécanisme de transformation, tant mieux. Voilà. Dans l'essentiel, c'est de gagner les gens qui pensent différemment et non pas les perdre.
Dernière question, quelle forme d'organisation doit avoir la diaspora pour accompagner le mouvement dans sa lutte pour une nouvelle République démocratique ?
C'est la production d'idées et puis c'est la création de passerelles. C'est-à-dire aujourd'hui, un Algérien qui vit à l'étranger n'est pas obligé de retourner en Algérie pour y vivre. Non, par exemple, il peut y avoir des séminaires de formation à travers la visioconférence et puis là aussi sur des thèmes spécialisés et sur des segments bien pointus.
Très bien. Le mot de la fin ?
Le mot de la fin, je dis qu'il faut continuer à soutenir la révolution citoyenne et qu'un processus révolutionnaire dure avec le temps et qu'il faudrait être patient.
Continuer le combat, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, à très bientôt.
Consumir بشوية شاهد من شاهد يا سعد نفجر ومجد نور رادي لكم صومي غير بشوية شكون السبا وشكون اللوم من اللي دال من شاهد يا والخمسة غي تسوي فيه بين الغمري مبنية والباصيرة ورشي فيه ضفوة الحرية في راجل الهدر بريفي يا عرف وكيد قيا ودراسة ولازم سيفي بير ومحو الأمية والخمسة راي تسوي فيه بينتهم راي مبنية والباصيرة ورشي فيه ضفوة الحرية في راجل الهدر بريفي يا عرف وكيد قيا مدرسة ولازم سيفي بير ومحو الأمية سعد نفجر ومجاني نور رادي لكم صومي غير بشوية شكون السبا وشكون اللوم من اللي دار عيشة هدية سعد نفجر ومجاني نور
que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit, de quoi te rendre malade.
FPP 106.3.
C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi.
Fréquence Paris Pluriel.
Tu es un esclave, Néon.
Avec FPP, vous avez le choix.
N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.